Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Ce soir, on vous dira tout sur les derniers indicateurs du Covid. Les chiffres ne sont pas bons. Le président Macron prédit des semaines à venir difficiles. Olivier Véran s'exprimera ce soir. Alors à quoi faut-il s'attendre? Tout semble, c'est vrai, présager d'un nouveau confinement. Notre invité pour en parler à 18h20, le professeur Gilles Pialou. Il est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. 18h30, les polémiques du jour avec les grandes voix. Pourquoi ne pas confiner uniquement les personnes à risque? Ça fait débat, on en parlera. 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on évoquera la colonisation et la guerre d'Algérie après la remise du fameux rapport Stora. Comment réconcilier les mémoires? Quelle place aussi pour la repentance? C'est un sujet douloureux qui, 60 ans après, nous le verrons, continue de diviser. On sera évidemment avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord, l'actu du jour avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Premier point sur lequel j'aurais envie qu'on avance, c'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux deux repas par jour par les Restos U à 1 euro.
Emmanuel Macron au chevet des étudiants, le chef de l'État dit avoir entendu leur détresse.
Et leur annonce donc des repas à 1 euro pour tous, mais aussi un soutien psychologique et la possibilité de revenir en cours un jour par semaine.
Alors nous, on va revenir sur ces annonces présidentielles dès le début de ce journal avec Virginie Riva.
Au sommaire également ce soir, un broglio autour de la 6e dose de vaccin Pfizer décide de réduire ses livraisons.
Du coup, cette 6e dose qui était un bonus devient une contrainte, nous expliquera Victor Dolande.
Face à la menace du variant britannique qui se propage vitesse grand V, de grands noms de la médecine préconise l'idée très impopulaire d'un reconfinement des personnes âgées et des personnes fragiles.
La lutte contre le Covid, priorité numéro 1 également du nouveau président des États-Unis. On sera en direct de Washington.
On vous racontera également l'histoire d'un copieur manifestement pris la main dans le sac. L'enseigne Lidl va sans doute devoir retirer de ses rayons son super robot, Monsieur Cuisine.
La bourse de Paris a terminé en baisse, moins 0,67% à 5590 points.
Un nouvel épisode de vent violent au programme aussi demain. Prudence, bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien, nous avons trois départements du sud-ouest placés en vigilance orange pour demain matin. Une nouvelle perturbation va traverser le pays et surtout une tempête arrive, elle s'appelle Hortense. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron dit donc entendre la détresse des étudiants et il s'engage à améliorer leur quotidien.
Oui, les annonces ont été faites à l'occasion d'une rencontre à l'université de Paris-Saclay dans l'Essonne. Le chef de l'État qui a commencé par une mise en garde, les prochaines semaines seront encore difficiles.
Il va donc encore falloir tenir, sauf que pour certains, c'est de plus en plus compliqué. Le gouvernement va donc les aider, aussi bien financièrement que psychologiquement. Bonsoir Virginie Riva.
Bonsoir.
Avec une aide alimentaire d'abord.
Oui, le président annonce deux repas alimentaires par jour pour tous à 1 euro. En clair, tous les étudiants pourront aller chercher ces repas auprès du Crous. Auparavant, ça n'était accessible qu'aux étudiants boursiers. Là, ça va s'adresser aux non-boursiers, comme d'ailleurs aux étudiants internationaux qui, eux aussi, sont en grande difficulté. Et ça, ça sera mis en place le plus vite possible, nous dit-on du côté du gouvernement, pour la fin du mois et même dès lundi éventuellement.
Virginie, on entend aussi un jour par semaine de présence.
Oui, on sait que le fait de rester chez soi, seul devant un ordinateur, c'est extrêmement dur à vivre. Emmanuel Macron souhaite donc un retour très progressif à la fac.
Un étudiant qui soit en licence ou en master, il doit avoir à peu près les mêmes droits, il a les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille. Et s'il en a besoin, il doit pouvoir revenir une journée par semaine à l'université pour faire du présentiel, que ce soit en TD ou en cours. Et donc ce qu'on va construire, c'est une solution pour le deuxième semestre qui consistera à dire un étudiant ou une étudiante a le droit d'avoir 20% de son temps en présentiel. Et on doit essayer de tenir, c'est d'ailleurs un jour sur cinq.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser avec un peu d'avance, Virginie. On entend un jour par semaine de présence, sauf que ça n'est pas aussi simple que ça dans les faits.
Pas si simple, effectivement, car Emmanuel Macron a certes parlé d'un jour en présentiel pour tous les étudiants, mais la règle, a-t-il ajouté, c'est que ça ne doit pas dépasser la jauge de 20% par rapport à la capacité d'accueil globale des facs. Là où ça se complique, Julien, c'est que dès lundi prochain, le but, c'est aussi d'accueillir 50% des étudiants de première année en présentiel pour leur TD. Autant vous dire qu'on n'aimerait pas être président d'université, car si vous m'avez bien suivi, et c'est un défi lancé aux règles mathématiques, il va falloir que 20% plus 50% fassent 20%.
Oui, en tout cas, manifestement, le président a quand même pris conscience des ravages de la solitude et il a d'ailleurs confirmé que les étudiants pourraient être aidés psychologiquement.
Oui, c'est ce qu'avait d'ailleurs déjà annoncé le Premier ministre. C'est confirmé aujourd'hui par le président, un chèque santé mentale qui sera en vigueur dès le 1er février, d'après nos informations.
L'idée, c'est comment on permet à tous les jeunes qui en ont besoin d'accéder beaucoup plus facilement à un professionnel, psychologue ou psychiatre, quand on en a besoin. Dans les semaines qui viennent, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de pouvoir travailler avec les centres hospitalo-universitaires et les centres hospitaliers et les psychiatres qui sont dans ces centres, avec l'ensemble des universités, et de mettre en place un dispositif où tout étudiant puisse avoir accès à un parcours de soins, en tout cas qu'il soit accompagné pour que la parole soit recueillie, qu'il soit prise en charge.
Voilà, il pourrait s'agir d'un chèque prépayé de 3 consultations. Le montant d'une consultation en ville étant autour de 30-40 euros. Des dispositifs d'aide qui contentent plutôt les organisations étudiantes. Mais en revanche, sur le retour en présentiel, là, c'est la déception.
Eh bien, on va écouter ensemble justement la réaction de la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce.
Un jour en présentiel par semaine, c'est loin de suffire. C'est largement insuffisant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demandait, c'était une alternance, une semaine présentielle, une semaine distancielle, pour avoir un vrai encadrement pédagogique. Si vous pouvez aller en cours qu'un seul jour par semaine, ça ne va pas permettre de raccrocher les wagons pour tous les étudiants qui sont en train de décrocher massivement.
Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, et vous nous dites, Virginie Riva, que l'UNEF appelle quand même à la grève. Hein.
Oui, effectivement, mardi prochain et dans toute la France.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Merci pour toutes ces précisions importantes. Alors Emmanuel Macron, qui en marge de ce déplacement à Saclay, a aussi poussé un coup de gueule.
Nous sommes devenus, a-t-il dit, une nation de 66 millions de procureurs, s'agaçant que les Français critiquent en permanence la gestion de la crise par l'exécutif. Cette espèce de traque incessante de l'erreur avant de conclure, celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne cherche pas. Concernant la campagne de vaccination maintenant, c'est l'annonce du jour. Pfizer va réduire le nombre de flacons livrés en France.
Oui, et pour justifier cette décision, Victor Delande, le laboratoire profite des recommandations de l'Agence européenne des médicaments.
Oui, cette agence a recommandé il y a 10 jours de ne pas gâcher, donc de prélever non plus 5 mais 6 doses dans chaque flacon. Conséquence, Pfizer a décidé de diminuer d'un sixième le nombre de flacons livrés. Lorsqu'il en fournissait jusqu'à présent 20 pour 100 doses, comprenez 5 doses par flacon, ce sera désormais 16,6 flacons qui seront envoyés, nous explique le ministère de la Santé. Sauf que dans les centres de vaccination, pour le moment, on continue à prélever le plus souvent que 5 doses, comme l'explique le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
On essaye de faire 6 doses, on s'est aperçu qu'on pouvait le faire, mais on ne peut le faire que dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles, c'est quand on a le bon matériel, et le bon matériel n'est pas toujours disponible. La DGS, en quelque sorte, n'a plus le droit à l'erreur. Il faut qu'elle fournisse le bon matériel partout. La question, c'est quand ce matériel va-t-il arriver ? Parce que tant qu'il n'arrivera pas, on n'arrivera pas à faire 6 doses dans les meilleures conditions possibles, et donc on va vacciner globalement moins de personnes.
Donc si on comprend bien, Victor, il pourrait y avoir maintenant un problème de seringue ?
Mais oui, car pour prélever 6 doses dans les mêmes flacons, il faut des aiguilles spécifiques qui ne sont pas forcément disponibles pour le moment dans tous les centres de vaccination. Et comme beaucoup de pays vont commander le même matériel en même temps, la tension risque d'être forte. Le ministère de la Santé se veut rassurant. Les centres de vaccination qui n'en ont pas seront livrés, nous assure-t-on. Mais donc il y a encore quelques jours, cette sixième dose qui était un bonus, une personne potentiellement en plus à vacciner. Avec la réduction des livraisons de flacons, ce bonus s'est transformé en contrainte.
On suivra ça tout ça. Merci Victor Delande du service Société d'Europe 1.
En attendant que tout le monde soit vacciné et face à la progression du variant britannique, c'est la petite musique qui monte. Ne serait-il pas opportun de confiner les plus âgés et les plus fragiles ?
Ce qui permettrait de contenir la tension hospitalière, de garder les écoles et les facs ouvertes et de conserver une activité économique. Proposition poussée notamment par le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière.
Si on continue un programme de vaccination intense, et si ça dure que 2 à 3 mois, ça me paraît à ce moment-là légitime. D'un côté, on vaccine ces personnes en priorité, et de l'autre côté, ces mêmes personnes, c'est-à-dire les personnes âgées, celles qui ont des comorbidités, acceptent de s'isoler pendant cette période pour qu'on ait le temps de vacciner le reste de la population et de mettre toute la population à l'abri, et qu'on puisse tenir dans la durée et en particulier prendre en charge tous les autres patients. Ce qui éviterait, car c'est ça aussi l'objectif, de fermer le pays et donc de faire effondrer l'économie et aussi de fermer les écoles avec l'impact que l'on sait sur les enfants. Et on parle quand même là de l'ordre de 15 millions de personnes. Ce n'est pas anodin du tout comme décision.
Le professeur Gilbert Deray, chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, avec Romane Hoquet. Pour l'instant, Matignon balaye cette idée.
Oui, des propos qui font écho à ceux d'Olivier Véran cet après-midi devant la commission de loi du Sénat. Un nouveau confinement deviendrait probablement une nécessité, a-t-il dit, si la circulation du variant anglais augmentait de façon sensible en France. Et on en parlera dans quelques instants avec notre invité, le professeur Gilles Pialoux.
Alors que l'Union européenne est-elle à la recherche de nouvelles pistes pour mieux harmoniser ces actions contre l'épidémie. Plusieurs idées sur la table. Contrôle accru aux frontières, passeport vaccinal. On sera à Bruxelles dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, la suite du journal 18h10 et on vous emmène aux États-Unis. Alors hier, à cette même heure, nous vivions ensemble la cérémonie d'investiture du nouveau président. Eh bien, pas de temps à perdre, Joe Biden a déjà signé une dizaine de décrets présidentiels.
Notamment sur le climat, l'immigration ou encore la gestion de l'épidémie, puisque vous savez que c'est sa priorité. Avec plus de 405 000 décès, le nombre de morts du Covid aux États-Unis a dépassé hier celui des soldats américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur place. C'est vraiment une course contre la montre qui est engagé à laquelle se livre Joe Biden.
Oui, le nouveau président veut incarner l'offensive de l'État fédéral dans ce combat contre le Covid-19. Hier, son premier décret instituait le port du masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux. Aujourd'hui, il va prendre une série de nouvelles directives pour accroître la capacité de tests, rendre plus équitable l'accès au dépistage, augmenter l'offre de vaccins et le nombre de sites de vaccination. La lutte contre la pandémie, elle obsède le président Biden, expliquait hier Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche.
Tous les jours, il se réveille avec comme priorité de maîtriser la pandémie et tous les soirs, il se couche avec comme priorité de maîtriser la pandémie.
L'équipe Biden affiche là ses différences avec l'administration Trump qui a toujours minimisé les conséquences de la maladie, alors que plus de 3000 personnes meurent chaque jour dans le pays. Autre symbole fort à venir, le docteur Anthony Fauci assistera ce soir au point presse de la Maison-Blanche. Depuis le mois d'avril, il y est apparu une fois seulement, comme un nouvel exemple de la part de l'administration Biden de remettre la science au cœur de la lutte contre la pandémie.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
C'est une information Europe 1, l'arrestation du Français le plus recherché par Europol.
François Di Pasquali a été interpellé hier soir en Espagne après une cavale de plus de 4 ans.
Il avait été condamné en son absence à 10 ans de réclusion criminelle pour le viol d'une femme de 84 ans à Saint-Étienne. On va y revenir dans le journal de 19h.
C'est une passion française qui s'est encore exacerbée avec les différents confinements. Évidemment, la cuisine, l'enseigne de grande distribution Lidl espérait surfer sur cet engouement.
Oui, en vendant un super robot, Monsieur Cuisine, c'est son nom, à un prix défiant toute concurrence, 399 €. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'il ressemble un peu trop, voire beaucoup trop, à l'iconique Thermomix, vous savez. Alors Lidl a été condamné en Espagne à retirer ce produit des rayons. Et vous nous confirmez ce soir, Carole Ferris, que vous nous révéliez dès la mi-journée, une procédure est également en cours en France.
Exactement. En fait, c'est la maison mère de Thermomix en Allemagne qui a porté plainte dans plusieurs pays, dont la France, donc pour violation de la législation sur la protection des brevets. La justice espagnole a été la première à réagir. Elle accuse Lidl d'avoir beaucoup trop copié en effet Thermomix pour fabriquer son robot maison, en reprenant quasiment toutes les caractéristiques, pourtant protégées par des brevets. Sauf que vous l'avez dit, le Monsieur Cuisine de Lidl est vendu 399 €. C'est 2 à 3 fois moins que le coût du Thermomix. Mais ce coût est justifié, selon Pierre-Yves Buisson, directeur général France de Forwerk, la maison mère de Thermomix.
On a un choix, si vous voulez, délibéré de proposer des produits qui sont innovants, qui sont durables, qui sont réparables. On les produit en France. Et pour ça, bien entendu, on investit des sommes importantes. On a un peu plus de 100 personnes qui travaillent en recherche et développement en Allemagne. On investit des millions d'euros, en fait, dans chaque produit qu'on lance sur le marché. Et on ne souhaite pas que d'autres marques se saisissent, en fait, de ces innovations sans avoir payé le prix de la recherche et développement qui va avec.
Alors, que dira la justice en France? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la législation sur les brevets n'est pas forcément la même suivant les pays. Donc, rien ne permet pour le moment de savoir si, oui ou non, les Monsieur Cuisine de Lidl seront retirés de la vente en France.
Merci Carole Ferry. Suspense. Écho d'Europe 1. On va suivre ça aussi.
C'est vrai que c'est la journée du câlin aujourd'hui. Oui. J'aurais adoré vous faire un câlin. Et voilà, ben non, ça, on ne peut pas avec le Covid. Interdit. Mais je voulais vous le dire. Voilà, c'est la journée du câlin. Et il paraît qu'il faut 12 câlins par jour pour se sentir bien. Des petits câlins, hein, pas forcément des grands câlins. Voilà, j'arrête là. Merci Isabelle, on vous retrouve à 18h30 avec le rappel des titres et à 19h pour le journal. Un coup d'œil à la météo. Alors là, on ne va pas se faire de câlins parce que c'est plutôt un gros coup de vent qui nous attend
ouais,
demain.
On en aurait besoin de câlins, effectivement, parce que c'est une tempête qui arrive, la tempête Hortense qui arrive sur l'Aquitaine, avec pour demain matin 3 départements vigilance orange, les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, vigilance orange, vent fort. Sachez que sur ces départements, les rafales pourront atteindre demain matin les 130-140 km/h. Ça va souffler très fort sur les côtes. Avec cette dépression Hortense, eh bien le temps est perturbé sur presque tout le pays. En Nouvelle-Aquitaine, les pluies seront soutenues. Au sud d'une ligne qui va des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, eh bien là, toutes les régions seront sous la pluie demain toute la journée. Sur les Alpes, le Massif central, les Pyrénées et la Corse, la neige est de retour avec des flocons à partir de 1200 mètres. Et puis à l'arrière de cette perturbation, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, de la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par la Normandie et la région parisienne, là le temps sera sec, lumineux et ensoleillé toute la journée demain. Les températures...
J'aime bien quand vous finissez par une note positive.
Ouais, j'essaye de trouver toujours un petit truc de positif.
Un petit coin de soleil.
Pas évident en ce moment. Les températures, elles baissent légèrement demain matin avec 2 à 7 degrés sur la moitié nord, 8 à 11 dans le sud et puis dans l'après-midi, c'est stationnaire. Hein. On aura 6 à 16 degrés, 6 à Charleville-Mézières, 10 à Paris, 14 pour Avignon et 15 à Marseille.
Oui, ça remonte assez nettement même. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo à 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir professeur Gilles Pialou. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. On a ce soir, c'est vrai, 1000 questions à vous poser au vu de l'évolution des chiffres de l'épidémie. D'abord, êtes-vous inquiet au vu de la situation actuelle avec l'arrivée de tous ces variants dont on ne connaît d'ailleurs pas toujours l'origine?
Inquiet, je ne sais pas si c'est le terme, puisqu'on est obligé d'être au combat. Moi, j'ai déjà des patients avec variant anglais dans mon service, donc pour moi, ce n'est pas une donnée livresque, britannique ou... à prendre à la légère. Oui, on est très préoccupés, puisque ça sera inéluctable. Ce variant sera le variant majoritaire. Je ne sais pas quand, si c'est en mars ou en avril. Donc, on est dans une situation nouvelle. On va gérer un pion de plus, qui est celui de la circulation accélérée du virus par des variants qui, eux-mêmes, sont plus transmissibles.
Professeur, est-ce que vous avez des infos sur ce qui se passe du côté de Compiègne, dans l'Oise? On compte 240 personnes contaminées dans un hôpital, dont 70 soignants. Et on sait que ça n'est pas le variant anglais, puisque des séquençages l'ont montré. On dit que ce pourrait être un nouveau variant. Est-ce que c'est possible, ça?
C'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'était, juste pour revenir, pour répondre à votre question, c'était la conjonction de deux phénomènes. C'est à la fois un pays qui séquençait énormément de génomes, 10% de sa population, ce que la France ne sait pas faire, et à Compiègne comme ailleurs. Et deuxièmement, une circulation très active du virus qui fait que le virus faisait de plus en plus de fautes puisqu'il se multipliait de plus en plus. C'est le principe même de ces erreurs de réplication qu'on appelle mutation. Donc je n'ai pas d'informations sur Compiègne. Je sais qu'effectivement, il y a un certain nombre de clusters, y compris dans d'autres groupes hospitaliers, dans un hôpital de gériatrie. Et effectivement, on est très préoccupé par cette augmentation de circulation du virus qui peut augmenter effectivement l'émergence de nouveaux variants qu'on ne peut pas prédire.
Juste sur cette histoire de variant, ça veut dire que chaque pays peut avoir son propre variant, le variant brésilien, le variant anglais, le variant sud-africain, peut-être demain le variant français?
Non, mais là, c'est une dérive, si je puis me permettre. C'est une dérive sémantique. C'est parce qu'il a été isolé, dans une région qu'on l'appelle comme ça. Mais ce variant, il est présent partout dans le monde.
Oui.
Celui d'Afrique du Sud viendra aussi. Et c'est pour ça que ça rend assez illusoire l'idée du contrôle aux frontières. Ce qu'il faut surtout, c'est dépister, avoir des tests. Parce que je ne sais pas si à Compiègne, ils ont pu faire tous ces génomes. Je pense qu'il y a des tests qui permettent de suspecter. Là, on a des tests PCR qui permettent de suspecter un variant anglais. Et dès lors, on fait effectivement le génome, c'est ce qui nécessite quand même un laboratoire très équipé.
Mais chacun de ces variants a quand même
il y aura d'autres variants.
Chacun de ces variants a quand même des particularités différentes. C'est ça qui est un peu inquiétant. Il y en a qui sont plus contagieux, peut-être demain qui seront plus létales, on ne sait pas. Enfin, c'est aussi ça l'inconnu de ce qui nous attend.
Alors, plus létal et plus grave, pour l'instant, il n'y a aucun variant décrit qui, malgré des informations qui ont été faites dans ce sens un peu partout, y compris en France, il n'y a aucun variant qui a été décrit comme étant un facteur de gravité. C'était quand même une donnée importante, et a fortiori de létalité. Par contre, effectivement, ces variants, c'est la loi de Darwin, c'est des variants qui veulent échapper au système immunitaire. Donc, on trouvera, et on trouve, des variants qui probablement, je pense notamment aux Sud-Africains, échappent en partie au moins, à la réponse immunitaire, que ce soit celle de l'organisme, que ce soit celle des traitements qu'on essaye, comme le traitement qu'avait eu Trump, par exemple, les anticorps anti-spike, ou bien sûr, ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est la réponse vaccinale.
Alors, professeur Gilles...
De temps en temps, si je puis me permettre, j'essaye à chaque fois de passer une bonne nouvelle.
Mais vous
c'est aussi, à force de muter, le virus, il peut aussi avoir des variants qui vont... le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à pénétrer dans les cellules, à force de faire des erreurs, parfois... ça se retourne contre le virus, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour les mois qui viennent.
Non, mais vous avez raison d'être optimiste, mais c'est vrai que pour l'instant, on a plutôt des mauvaises nouvelles optimistes, des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, professeur Gilles Pialou. Beaucoup de vos collègues disent qu'il faut agir maintenant, sinon on sera submergé en mars avec ces variants qu'on évoque. Est-ce que ça veut dire confinement, et si oui, lequel?
Alors, je fais partie d'un petit groupe de réflexion qui s'appelle Pandémia et on avait signé une tribune dans Le Monde il y a déjà 10 jours.
Je m'en souviens.
Qui effectivement considérait comme inéluctable la nécessité d'un confinement. Après, comme vous le savez parfaitement et ça a été dit dans votre sujet, c'est une décision qui est à la fois politique, sociétale et la date est plus évidemment qu'il ne faut pas attendre que ce variant qui va devenir majoritaire, nous est envahi, et surtout envahi les réanimations et les services d'hospitalisation. Donc oui, il y a des mesures qui sont à prendre dans un délai. Voilà. En fait, c'est inéluctable, c'est la date qui doit être politiquement décidée, et la géographie aussi. C'est-à-dire, ouais. Est-ce qu'on s'adresse à tous les Français, à certaines populations, ça a été discuté par certains collègues.
Justement, professeur Gilles Pialoux, je voulais vous poser la question très précise. Le Conseil scientifique l'a proposé il y a peu, comme d'ailleurs ce matin votre confrère Odile Launay, qui préconise de ne confiner que les personnes les plus à risque en attendant le vaccin. Ça représente 20 millions de personnes à peu près, 20 millions de Français. Vous en pensez quoi, vous ?
Je pense qu'il faut que les choses soient acceptables éthiquement aussi, même si effectivement...
Mais scientifiquement, ça fait sens ?
Scientifiquement, ça fait sens à partir du moment où vous mélangez dans une population la fragilité, le risque de développer des formes graves et une circulation du virus. Mais vous savez que depuis des mois, on n'a pas de marqueur très précis de la circulation du virus en population par tranche d'âge. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y a des populations qu'on peut auto-confiner, c'est-à-dire avoir des messages didactiques, avoir de la pédagogie. Je pense notamment aux personnes effectivement les plus âgées, les vulnérables. Mais par exemple, on peut pas imaginer dans un pays qu'on va confiner, par exemple, les personnes qui ont une obésité, qui les met à risque de formes graves. Ça serait effectivement discriminatoire. Donc voilà, je pense que ce qui est le plus important, c'est de mélanger, me semble-t-il, les régions où le virus circule le plus et les populations où le virus circule le plus.
Alors sur la vaccination, professeur Gilles Pialoux, vous avez vu que ça y est, des centres sont obligés de fermer parce que les doses n'arrivent plus. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait mal ? Pourquoi ça ne va pas plus vite ?
Là, on passe à la case consternation, c'est-à-dire que je suis désolé, les mots vont être un peu sévères, mais je pense que la France n'a pas de plan vaccinal. La France n'a pas de plan vaccinal, elle a un plan de gestion des doses.
Oui, c'est exactement...
Le plan de la Haute Autorité de Santé du 27 novembre, c'est un plan de gestion de doses qu'on n'a pas.
C'est exactement ce que disait tout à l'heure le professeur Bréchaud. Il disait, en substance, on est à côté de la plaque, la vaccination ça devrait être une grande cause nationale, avec les moyens qui vont avec. Si on est en temps de guerre, mettons les moyens qui vont avec ce temps de guerre. Donc vous rejoignez à peu près sa position ?
En plus, c'était mon chef il y a très longtemps. Je rejoins complètement Christian Bréchaud, qui connaît extrêmement bien le sujet, qui a une vision en plus internationale. Ouais. On est à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on a fait un plan de gestion d'une pénurie de doses dont je ne connais pas les méandres. Et on s'est mis à prioriser des gens, à opposer les soignants aux gens qui ont des comorbidités et des plus âgés, à sélectionner un certain nombre de personnes âgées. Tout le monde dit les personnes âgées vont être vaccinées, c'est une aberration. D'abord, on n'est pas du tout dans les chiffres où on aura vacciné tous les EHPAD. Et puis, il faut rappeler que les personnes âgées ne vivent pas toutes en EHPAD.
Oui. Et vous savez, vous...
Les EHPAD, c'est peut-être 600 000 personnes.
Vous savez, vous, professeur Gilles Pialoux, où elles sont, ces doses ? Parce que ce soir, j'ai regardé les derniers chiffres, 700 000 personnes ont été vaccinées. Ça veut dire qu'on a 1 million de doses qui dorment dans les frigos. Ils sont où ces doses ?
Non mais moi, alors je vous tranquillise, je ne fais pas partie de ceux qui savent où sont les doses. Et effectivement, dans la chaîne d'approvisionnement, nous on vaccine énormément. On a vacciné 700 personnes à Thenon. Bien sûr, en commençant par les soignants et puis maintenant par les patients qui ont été sélectionnés, triés parmi ceux qui sont le plus à risque. Ça paraît incroyable. À Thenon, on vaccine, par exemple, c'est très bien pour eux, je suis très content, mais on vaccine les personnes qui sont dialysées, qui ont des cancers et qui sont avec des insuffisances rénales greffées. C'est très très bien pour eux et c'est une très bonne chose. Mais les autres, c'est compliqué d'expliquer aux autres que pour l'instant, il n'y a pas de dose, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront vaccinés et qu'on ne peut rien leur répondre. Oui. C'est exactement ce qu'on répond et... Je pense par exemple aux patients VIH, immunodéprimés, mais à plein d'autres patients.
Dernière question, professeur Gilles Pialoux, peut-être plus personnelle. Comment vont vos équipes, les soignants qui vous entourent à l'hôpital Thenon ? Ils tiennent le coup ?
Là, c'est vrai qu'on a eu un coup de boost positif avec cet engouement des soignants pour la vaccination, avec tout ce que ça, avec toute cette complexité. Un coup, il y a des doses, un coup, il n'y a pas assez de doses. Mais c'est vrai que on avance sur, et ça, c'est très important pour les équipes soignantes de pas faire que subir. Et puis, il y a la question aussi de se protéger avec des clusters hospitaliers. Vous l'avez rappelé pour Compiègne, des clusters hospitaliers, pas forcément avec le variant anglais, mais c'est évident que le variant anglais va amener des clusters. Donc, le personnel est effectivement préoccupé et veut à la fois être protégé, doublement protégé. Protégé par les équipements de protection et évidemment protégé par la vaccination.
Bien. Merci, professeur Gilles Pielloux. Courage à vous et courage évidemment à toutes les équipes de soignants. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous, 18h28, dans quelques secondes, le rappel des titres et le débat des grandes voix. Pour ou contre un reconfinement uniquement des personnes fragiles? Justement, on va en parler avec les grandes voix ce soir. Ça fait débat.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Emmanuel Macron veut desserrer les taux pour les étudiants, mais, dit-il, l'hiver s'annonce long. Pas de retour à la normale au deuxième trimestre. Toutefois, un souhait, faire en sorte qu'il y ait 20% de présentiel un jour par semaine à la fac. Le président annonce que l'accès au repas à 1 euro va être élargi pour tous, deux fois par jour. Et il promet de mettre en place un parcours de soins pour ceux qui sont en détresse psychologique. Emmanuel Macron, qui s'est par ailleurs agacé aujourd'hui de voir qu'il y avait en France 66 millions de procureurs. Ce sont ces mots, 66 millions de Français qui critiquent la gestion de la crise par l'exécutif. Le laboratoire Pfizer réduit le nombre de flacons de vaccins contre le Covid-19 après que l'Agence européenne des médicaments a estimé que chaque flacon pouvait contenir 6 doses et non 5, comme initialement prévu. Cet après-midi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime qu'un troisième confinement deviendrait une nécessité absolue si la circulation du variant anglais augmentait de façon sensible. Et l'Agence européenne chargée des épidémies appelle ses États membres à se tenir prêts à prendre des mesures plus strictes dans les semaines à venir. La disparition aujourd'hui de l'actrice Nathalie Delon, qui avait notamment joué dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville avec son mari de l'époque, Alain Delon. Elle avait 79 ans. Disparition également du créateur de la bande dessinée Michel Vaillant, l'auteur Jean Graton.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Un petit coup d'œil au temps avant le débat des grandes voix. Et cette tempête Hortense donc qui arrive, Anissa.
Oui, et elle arrive par le sud-ouest, Julien, avec dès demain matin 7h les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange. Vent fort. Il faut savoir que sur ces départements, on attend demain, tout au long de la journée, des rafales qui pourront dépasser les 130 km/h, notamment sur les côtes. Demain, cette nouvelle dépression va nous apporter aussi beaucoup de pluie. Il pleut sur toutes les régions, sauf la Bretagne, la Normandie et le bassin parisien. Partout ailleurs, c'est de la pluie. Le temps, là, sera sec et ensoleillé dans le nord-ouest toute la journée. La neige revient sur les reliefs à 1200 mètres et les températures baissent légèrement demain avec 1 à 11 degrés demain matin. 1 pour Aurillac, 4 à Clermont-Ferrand, 6 à Paris et 10 pour Marseille.
Merci Anissa, vous revenez nous voir tout à l'heure avec des bonnes nouvelles, j'espère, à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés, Michel Cotta. Bonsoir ma chère Michel.
Bonsoir.
Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Amdam Mostafavi, pardon, rédactrice en chef adjointe à l'Express. Bonsoir Amdam.
Bonsoir.
Alors c'est le débat qui monte. En cas de reconfinement, ce qui semble probable, pourquoi ne pas reconfiner uniquement les personnes fragiles? En clair, les personnes âgées ou ceux qui présentent des maladies chroniques ou des fragilités, ça représente environ 22 millions de personnes en France. C'est ce que propose par exemple la professeure Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19.
On peut se poser quand même la question de savoir si ce confinement ne pourrait pas être proposé aux gens les plus à risque, qui sont finalement ceux qui vont être très vite vaccinés, qui sont ceux qui sont le plus à risque d'être hospitalisés, de faire des formes graves, et ça permettrait de maintenir une certaine vie économique, et en particulier pour nos plus jeunes, de pouvoir envisager de reprendre une vie, de reprendre la fac.
Alors, il y a plein de choses dans ce débat, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a la question éthique, il y a la question juridique, on va en parler après. Mais d'abord, sur un plan purement sanitaire, ça tient plutôt la route, hein. C'est ce que disait à l'instant le professeur Pialoux, il était mon invité, Mickaël Darmon.
Oui, alors, sur un plan sanitaire, manifestement, il y a beaucoup d'arguments. Mais de mon point de vue, en tout cas par rapport à ce que je connais ou ce que j'entends, c'est-à-dire dans le champ politique, et en tout cas dans le champ de la majorité et de l'exécutif, on est opposé. Parce que ça va présenter, on va forcément en discuter, je pense que Michel va également donner son point de vue, ça va poser toute une série de problèmes tout simplement liés à une forme de discrimination sociale, au fait de tout simplement stigmatiser une population.
Oui.
Je me rappelle que lorsque parce que cette idée avait déjà surgi, et souvenez-vous même, c'était Emmanuel Macron qui avait laissé entendre que ce serait possible, eh bien, on a vu tout simplement des personnes de cet âge qui avaient dit, mais si c'est ça, moi je descends dans la rue et je me moque complètement de ces consignes et je continuerai à vivre parce que ces personnes qui attendent des vaccins en priorité on pourrait leur donner pour seule réponse de dire ben, finalement, alors, vous allez rester confinés.
Je vais me faire l'avocat du diable, évidemment.
C'est normal.
Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de discrimination sociale, par exemple, de fermer les restaurateurs et pas les petits commerces, et de confiner, ouais, là, bon, et de confiner les jeunes qui ne sont que très peu, ouais, concernés par le Covid, alors qu'ils pourraient continuer à vivre leur vie.
Alors, Michel Cotard. Oui, évidemment, les restaurateurs et tout ça, mais on ne va pas en parler. Si on reste simplement sur ceux qui ont le plus de risques, moi, je vais vous dire, premièrement, ce n'est pas eux qui prennent le plus de risques. Mmh. Eux, ils sont déjà pratiquement confinés. Moi, je vois ça autour de moi. Les gens qui ont plus de 75 ans sortent le moins possible déjà. Et le confinement, de ce point de vue-là, ne changera pas grand-chose. Il faudrait simplement que quelqu'un leur livre quelque chose pour déjeuner ou pour dîner. Mais le problème, c'est les personnes à risque.
Oui.
Qu'est-ce que vous appelez les personnes à risque?
Oui.
Qui est à risque?
Ben,
alors, le diabète.
L'âge médian, par exemple, des victimes de la Covid, je regardais les derniers chiffres avant de rentrer en studio, c'est 85 ans. Donc, il y a quand même un facteur âge.
On est d'accord, mais il y a aussi des jeunes qui meurent. Hein. Il y a aussi des jeunes qui sont dans les hôpitaux. Alors, peut-être ce serait... moi, je ne vois pas la faisabilité de l'ensemble, parce que je voudrais qu'on me dise qui est à risque et qui n'est pas à risque, étant donné que... Au-delà de 75 ans, de 80 ans, les gens ne sortent pas.
Non, mais l'argument massu qui est beaucoup repris par les scientifiques, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le conseil scientifique qui avait émis aussi une note qui va en ce sens. Et puis on l'a dit ce matin, la professeure, éminente professeure, hein, Odile Launay, infectiologue de son état, membre du comité vaccin Covid-19, on l'a entendu, va aussi dans cette même direction. Vous êtes plutôt pour, plutôt contre? Quel est votre avis, Amdam Mostafavi?
Je pense qu'on ne peut pas être aussi radical que pour et contre, évidemment. Évidemment, si on regarde que d'un point de vue strictement sanitaire, ça... mais on peut pas. On sait très bien que dans cette crise, toutes les décisions, elles ne sont pas prises uniquement sur le sanitaire. Ce n'est pas possible.
Sinon... Mais justement, c'est ça l'argument massu, c'est de dire on met pas à l'arrêt l'économie. On évite de mettre à l'arrêt l'économie.
Moi, je pense pas que ce soit la bonne réponse à apporter sur des populations. Il faut savoir que dans la plupart, par exemple, des EHPAD, c'est quand même les EHPAD, c'est une grande partie des gens dont on parle. Moi, j'ai parlé avec plusieurs directeurs d'EHPAD. La plupart, de toute façon, c'est pas tout le monde rentre dans l'EHPAD et sort. Voilà, ils sont déjà factuellement confinés avec un peu de souplesse pour voir les familles. Donc, rajouter une couche. Après, peut-être que ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est pour les personnes qui se considèrent, qui sont à risque et qui ont un certificat de leur médecin, de leur faciliter les choses sur des arrêts de travail, sur si des gens veulent s'auto-confiner, peut-être. Voilà, il y a des entreprises qui ne laissent pas forcément les salariés ne pas venir. Essayer de faciliter pour les gens qui eux-mêmes veulent se confiner. Mais bon, après, soyons honnêtes, avec tout ce qu'on voit, toutes les projections qu'on voit, malheureusement, dans un mois, je ne sais même pas si la question se posera encore seulement pour les plus fragiles.
Certains disent aussi que ça pourrait avoir l'avantage si les jeunes et les moins jeunes, mais qui ne sont pas des populations à risque, continuent à travailler, à vivre leur vie d'une certaine manière et ne sont pas confinés, à atteindre ce fameux seuil de l'immunité collective, Michaël Darmon.
Oui, mais c'est vrai, mais quand même, il vient d'être dit, et c'est vrai, au fond, on voit bien que dans cette pandémie mondiale, eh bien, chacun réagit aussi avec l'ADN de sa société, hein, avec les codes profonds. Et c'est vrai que ce projet, le projet social, le projet société qui consiste à dire on protège d'une part, et deuxièmement, on ne rompt pas l'égalité de traitement, ça vient se télescoper ce diagnostic et cette recommandation scientifique. Il est vrai aussi qu'on le voit bien dans le comportement des personnes les plus âgées, elles sont déjà pratiquement autoconfinées. Il y a un taux de responsabilité très très fort. On n'a pas encore vu la nouvelle ou l'information ou la dépêche sur laquelle la police a interrompu une fête avec 200 personnes qui avaient 75 ans.
Oui.
les personnes qui sont à risque sont aujourd'hui, quelque part, aussi les plus jeunes, parce que c'est bien normal, et ils sont dans la revendication de vivre leur jeunesse.
Mais c'est elles qui sont les principales victimes de la Covid.
Effectivement, c'est vrai aussi.
Juste un mot sur les exemples européens. Le Royaume-Uni et la Suède aussi, la Suède qui a peu confiné au début, avait confiné que les personnes âgées. Au final, ça n'a pas eu d'incidence majeure sur...
Alors, on marque une première pause.
En fait, c'est l'autoconfinement.
On marque une pause, Michel Cotta, et on vous retrouve dans quelques secondes. Je vous donne la parole. À tout de suite, 18h39.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h41, on continue de parler de ce débat qui agite en ce moment les scientifiques. En cas de reconfinement, faut-il ou non reconfiner uniquement les personnes fragiles? Michel Cotta, vous souhaitiez réagir?
À la rigueur, je crois que vous avez raison. L'auto-confinement, à la rigueur, commandé. Au fond, on pourrait dire, bon, on signale aux personnes qui se sentent à risque qu'elles doivent s'arrêter. Bon, à la rigueur, ça marcherait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça marche sur les plus de 70 ans, ça marcherait sans doute. Mais une instruction comme ça, aussi discriminatoire, encore une fois, quand est-on à risque? Est-ce qu'on est à risque? Toutes les personnes de 60 ans sont plus à risque pour le...
Il y a 22 millions de personnes qui sont à risque et qui sont...
Ils comptent 28 millions hein, tout à l'heure.
Entre 28 et 22 millions, mais on est à peu près dans, dans cette enveloppe-là.
Mais peut-être qu'ils ne comptent pas les gens qui ont un petit peu de tension à 60 ans.
Oui, je voulais vous faire aussi réagir à une réaction qu'a suscité la polémique aujourd'hui, celle d'Emmanuel Macron lors de sa visite aux étudiants à Saclay. Écoutez-le.
Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Ce n'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. C'est ça ce qui fait une grande nation. C'est d'accepter sa part de risque et donc sa part d'erreur.
Il n'aime pas la critique, visiblement, le président de la République, Hamda Mostafavi. Vous êtes rédactrice en chef, je le rappelle, adjointe à l'Express. C'est une drôle de formule qu'il a utilisée aujourd'hui. Ouais,
c'est le retour. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas gratifié de ces petites phrases quand même assez discriminantes contre ces satanés gaulois. C'est pas très agréable.
Il a raison ou c'est un dérapage pour vous?
Non, je pense qu'il a tort de
Il a tort.
Oui, je pense qu'il a tort de d'épingler comme ça là, parce que la gestion, évidemment, qu'elle a été problématique.
Oui.
On ne va pas revenir sur tous les tests, la vaccination, les masques, etc. Alors après, que cette gestion soit problématique pour des raisons valables qui sont que c'était totalement inédit, d'accord, mais on ne peut pas non plus dire que tout s'est bien déroulé et que les Français ont tort de se plaindre. On est quand
et
même
puis on a bien fait de susciter une forme de polémique, parce que du coup, ça a accéléré la campagne de vaccination, d'ailleurs.
Bien sûr. Et lui-même trouvait que la campagne de vaccination était trop longue.
Et j'ajoute qu'il a fait savoir qu'il était mécontent dans les colonnes du JDD.
On est en plein macronisme, je dirais, là, illustré. C'est-à-dire qu'on a cette capacité effectivement récurrente d'un président de la République à gâcher les contenus même des déplacements importants qu'il fait. C'est vrai que ça aurait pu très bien se passer.
Sous quoi? Sous le coup de l'émotion?
C'est récurrent, ce sont ses pulsions, il ne se contrôle pas à ce moment-là. Il est en colère, il est agacé. Il est agacé parce qu'il ne supporte pas les critiques, et c'est vrai. Les critiques, il peut d'ailleurs lui-même faire lorsqu'il décide d'en faire. Hein. Mais là, on voit bien qu'une fois de plus, on aurait pu parler ce soir absolument de ce que représente l'énergie quantique pour la France dans quelques années.
Et puis les annonces importantes.
Tout comme à l'époque, on aurait pu parler d'une journée entière sur la formation, mais de quoi a-t-on parlé il y a 2 ans de cela? Il a dit qu'ils allaient travailler au lieu de foutre le bordel. Donc, à chaque fois, on a une capacité, et je pense que ce soir, ces conseillers s'arrachent les cheveux en réalité, hein, tout en faisant bonne figure. Mais en fait, forcément, ils s'arrachent les cheveux.
Michel Cotard.
Oui, c'est à la fois pas surprenant et surprenant, parce que on a l'impression que c'est quand même une impulsion. À un moment donné, ils se disent, ils m'emmerdent tous. Voilà, on comprend très bien cette réaction. Mais c'est un manque de sens politique évident. Et si j'ose dire, ça humilie à la fois les Français et les procureurs.
Oui.
Parce que j'ai vu que les procureurs...
Oui, 66 millions de procureurs.
Bon, c'est le type même d'une réaction à la Macron contre lequel il lutte désespérément, qu'on peut comprendre parce que des critiques, ils en ont quand même toute la journée sur la tête. On peut comprendre, mais quand on est président, comme dit un livre, on ne dit pas certaines choses.
Non, mais surtout que les Français, ça fait maintenant un an, quasiment jour pour jour. Hein, ça fait un an qu'on est confinés, reconfinés, qu'on subit des mesures assez restrictives. Donc c'est un drôle de message quand même envoyé à tous les Français.
Oui, quand même, parce qu'on sait quand même que les Français dans l'ensemble ont été disciplinés. Enfin, on a accepté toutes les mesures.
Et puis ils font des sacrifices.
Tout le monde fait des sacrifices. Il y a des professions entières, la culture, la restauration qui sont sinistrées. Bon, ils ne sont pas tout le temps, tous les jours dans la rue en train de braver les confinements et de braver les mesures. Donc je pense qu'il y a une acceptation. Et alors même qu'il y a quand même eu des déficiences majeures, et on revient sur cette question des plus fragiles et aussi sur la question de l'énervement du président, c'est la question de la vaccination en creux. C'est il faut aller plus vite. On n'aurait pas à se poser la question du confinement des personnes vulnérables si on savait qu'on pouvait les vacciner rapidement.
Et puis il y a un effet de sens. Il y a un effet de sens qui est quand même assez intéressant à relever. C'est qu'il dit ça devant les étudiants à qui il est venu apporter des solutions. Donc il les inclut dans les 66 millions de procureurs en réalité.
Je crois qu'il y a aussi une dimension politique dans cet élément. C'est vrai que toutes les oppositions de gauche et de droite se concentrent contre toutes les mesures annoncées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient pas. C'est leur opposition. Ouais. C'est l'opposition, elle est là pour ça. Le problème, c'est qu'elle est à la fois à gauche, gardez-moi à gauche, gardez-moi à droite. Et c'est vrai que face à ça, Personne d'autre ne propose d'autres solutions, quand même, hein, sauf certains maires qui sont quand même très démagos en disant on n'a pas les, on n'a pas les doses, mais il n'était pas dit qu'ils aient tous leurs doses en même temps.
Oui.
Donc il y a quand même, je crois qu'il y a une réaction aussi très politique sur le monde politique autour de lui, qui critique tout sans proposer de
politique. Un petit mot de Michael Darmon,
oui, rapidement. Et une fois plus, ce type d'événement montre aussi la solitude du président, parce qu'aujourd'hui, pour le défendre ou pour pouvoir l'épauler, dans ce qu'il dit, eh bien on n'entend personne de côté de la majorité.
On parle des annonces, justement, elles sont importantes à destination précisément des étudiants. 18h47, restez avec nous, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix du jeudi, avec toujours Michel Cotta, Michael Darmon, chef du service politique d'Europe 1, Hamda Mostafavi, rédactrice en chef adjointe à l'Express. On parle maintenant de la réponse justement d'Emmanuel Macron au malaise des étudiants, car des annonces, il y en a eu à l'université Paris-Saclay, où il était aujourd'hui donc, en réponse à ce malaise, le président a donc annoncé la généralisation du repas à 1 euro. On l'écoute.
Le premier point qu'on va mettre en place pour le deuxième semestre, c'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les Restos U à 1 euro.
Bien, c'est une bonne mesure. Est-ce que ça vous paraît suffisant, ça, 2 repas par jour à 1 euro, Hamda Mostafavi?
Moi, je dirais trop peu, trop tard. Voilà.
Trop peu, trop tard.
Voilà. Je pense que, évidemment, ce n'est pas une mauvaise mesure. On ne va pas dire que c'est une mauvaise mesure. Les étudiants, ils en ont besoin. C'est un besoin criant. On sait que le nombre d'étudiants qui vont aux banques alimentaires a plus que doublé. On sait qu'il y a des taux de suicide graves. Enfin, je veux dire, ce n'est pas juste des enfants gâtés qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas...
Je crois
voilà.
que tout le monde en a pris
je
la mesure.
Je pense que tout le monde en a conscience maintenant. Donc, bon, on est en janvier, mi-janvier 2021.
Ça arrive très tard.
Voilà, ça a commencé quand même en mars 2020. Qu'on s'inquiète maintenant des étudiants. Donc, bon, oui, c'est une bonne mesure. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que... Je ne sais pas si maintenant la détresse n'est pas telle que... Ce n'est pas, ce
alors,
n'est pas
l'UNEF, suffisant. L'UNEF avait une revendication très simple, hein, un plan d'1,5 milliard d'euros avec notamment la hausse des bourses et des aides au logement. On sait que le logement, ça coûte très très cher pour les étudiants. Alors précision, pourquoi maintenant les étudiants ont des problèmes financiers? Parce qu'il n'y a plus de petits boulots, il n'y a plus de restaurants ouverts, il n'y a plus de garde à domicile, donc on ne fait plus du babysitting chez un oncle, chez une tante. On ne peut plus aller bosser le soir pour être barman ou être serveur. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui des étudiants. Michael Darmon, est-ce que ça vous paraît suffisant? La bonne réponse.
Non, ça ne peut pas être suffisant parce que, comme vous l'avez dit, il y a toute une gamme de problèmes, de besoins que les syndicats étudiants portent et qui ne peut pas être réduite uniquement par cette mesure, effectivement, qui est nécessaire mais pas suffisante. Une fois de plus, lorsqu'on se place dans une logique politique, et bien évidemment, Emmanuel Macron a forcément cela en tête. Une fois de plus, on est dans la contradiction. Lorsqu'il a parlé pendant plus de 2h30 au site Brut, qui est écouté majoritairement par des jeunes, il a montré toute sa compréhension, il a expliqué, il a voulu montrer qu'il était en connexion avec eux. Et ensuite, on a compris qu'il y avait un temps très long de réaction de l'exécutif pour entériner ce qui se passait. Et là, je pense qu'une fois de plus, également... Les étudiants qui voient que leur génération est marquée par cet événement, eh bien, on verra quelle mémoire politique ils auront.
Et politiquement, justement, c'est un sujet délicat, les étudiants. Hein, parce que si ça se transforme en crise sociale et donc en crise politique, ça peut aller très loin, ouais. Michel Cotta.
Oui, cela dit, la réunion, Michael Ramon avait raison de dire, on aurait pu dire, il a fait une réunion et la réunion avec les étudiants s'est bien passée. C'est vrai qu'à la fin, ils se sont remerciés, etc. Et au lieu de ça, on a dévié sur... on est tous des procureurs. Bon, mais oui, c'est vrai, 1,5 milliard, je comprends qu'on les demande. Mais quand vous entendez dans la même journée, les moniteurs de ski, les gens de toutes les stations d'hiver, demander des milliards, à un moment donné, c'est vrai que...
Les étudiants, c'est notre avenir, c'est notre trésor.
On est d'accord, c'est pour ça que c'était très intéressant.
Tourner la machine, c'est eux qui demain,
c'est vrai que c'est trop
peu trop tard. Mais c'est pour ça que c'est juste de dire trop peu trop tard, parce que ça arrive au même moment et les étudiants lisent la presse.
Et que faire d'autre?
Le président de la République a dit quoi qu'il en coûte. Mais
justement, ils arrivent en dernier au moment où le ministre du Budget, Michel Dussopt, dit c'est terminé. Le grand titre de la semaine, c'est en 2021.
Qu'est-ce que ça représente à l'aune de tout ce qui a déjà été dépensé?
Et 100 fois 1,5 milliard, ça fait beaucoup, quoi.
Mais oui, mais
et
les
en plus,
étudiants,
les mêmes qui demandent de l'argent sont ceux qui critiquent parce que la dette s'approfondit. C'est compliqué, franchement. C'est vrai, c'est tard.
Alors, j'ai pas vu beaucoup d'étudiants parler aussi du déficit budgétaire.
Alors, il y a 2,7 millions d'étudiants. De toute façon, on a toujours dit que il y avait un moment où le nombre d'étudiants était trop important. Oui. Et là, évidemment, face à cette crise, c'est terrible. Mais je reconnais que c'est le seul espoir dans qui était dans ces propos d'Emmanuel Macron, c'est de dire que leur diplôme ne serait pas sous-évalué.
Non, il a dit quelque chose de très important, justement.
Bah, non, mais il a dit ça aussi.
C'est important. Il a dit, Amdam Mostafavi, il a dit « Vous êtes ceux qui, demain, feraient la richesse de la France. Et aujourd'hui, on vous demande beaucoup. » Il l'a dit comme ça. « Vous n'êtes pas beaucoup touché par ce Covid et je vous demande des sacrifices pour protéger les plus anciens. »
Oui, d'autant que cette fameuse dette dont on parlait, évidemment, elle va échoir à ces générations-là.
Absolument.
Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est quand même la question de l'équité au sein même de ces étudiants, parce que le fait est que c'est des étudiants des universités qui sont particulièrement touchés. Un étudiant de classe préparatoire, il va quand même en classe. C'est comme les lycées, et c'est comme certains lycées, les lycées publics, c'est que la moitié du temps, tandis que les lycées privés, c'est... Il y a aussi, on parlait d'équité, d'égalité. C'est ça aussi, c'est qu'il faut quand même imaginer un système qui fait que déjà l'université française avait un problème structurel de créer, de pas abandonner les étudiants, de créer du lien, etc. Et que ça s'est aggravé par cette crise. Donc il faut apporter des réponses à ça aussi.
Et puis je crois qu'il y avait une réponse qui était très attendue aussi sur les aides au logement. J'en parlais, c'était la revendication de l'UNEF. Hein. J'ai regardé, le montant maximal des APL pour une personne seule s'est plafonné à moins de 300 euros. Aujourd'hui, quand on connaît le prix des logements dans les régions comme l'Île-de-France, comme Bordeaux, comme Lyon, ça peut être compliqué pour joindre les deux bouts.
Oui, et c'était effectivement un autre aspect très paradoxal de cette journée, puisque il est allé, le président la République a choisi d'aller donc à Saclay, qui est quand même l'université un peu des bonnes nouvelles, là où ça se passe bien, où c'est quand même franchement, le niveau est très très haut pour parler de l'énergie quantique et d'ordinateur quantique. Et by the way, comme on dit, hein, au passage, dire eh bien voilà, je sais, j'ai compris, voilà ce que je vous donne. Au lieu peut-être de choisir une autre université, un peu plus peut-être compliquée à gérer, mais plus audacieuse, d'aller voir un endroit où vraiment les étudiants ont des problèmes.
Et j'ai vu certains étudiants qui réagissaient en disant « c'est super, c'est deux repas par jour à 1 euro, mais comment font ceux qui résident par exemple à 30 à 40 minutes de leur crous ? Ils ne vont pas revenir le midi puisqu'ils ne sont pas en présentiel pour profiter de ce déjeuner à 1 euro. Ça aussi, c'est un problème.
On est d'accord, mais on est d'accord. C'est trop peu, c'est très tard, mais c'est quelque chose pour les étudiants qui vivent à Paris ou qui sont en banlieue et qui sont contents de le faire et qui ont vraiment des problèmes pour manger, au moins, ça, c'est... Mais c'est vrai qu'on ne le fera jamais faire 45 km s'ils sont trop loin du coup, ça, c'est sûr.
Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés le débat des grandes voix du jeudi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous 18h56. On se retrouve dans quelques instants avec le journal et le débat du Club des Idées. Ce soir, on parlera du rapport Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Comment réconcilier les mémoires ? À tout de suite.